Aujourd'hui, un homme est mort. Il était mon beau-frère. Il venait de fêter ses 63 ans. Il y a 2 ans, un an après avoir pris sa retraite, les médecins lui ont découvert un mal irrémédiable. Les poumons atteints, non par la cigarette, il n'a jamais fumé, mais par l'amiante. Travaillant comme plombier zingueur depuis l'âge de 18 ans, il a eu tout le temps de respirer à plein poumon. Pourtant, quand jeune travailleur, il a commencé sa profession, la preuve que l'amiante était un poison était déjà connue depuis des décennies. Je pose alors une simple question. Qui est responsable? Nos chers politiques, tous issus de nos grandes institutions, n'étaient-ils pas au courant? Peut-être n'ont-ils pas le temps de lire les rapports des spécialistes? Ou plutôt se moquent-ils complètement de la santé des gens? On est bien obligé de croire en cette réponse. Il est aussi vrai que ces gens-là, n'ayant jamais tenu un outil en main, ne risquaient pas d'attraper cette saloperie. Voilà. Aujourd'hui, un homme est mort, et on nous en promet 100 000 de mieux dans les 15 ans à venir. Bon courage à tous.
Oui, Daniel, c'est Julien de Toulouse. Voilà, hier, j'écoutais ton émission, lundi, et tu faisais tu te réjouissais de la victoire en Italie, tu te réjouissais un petit peu de la victoire en France. Enfin, c'était un peu la tonalité de l'émission. Et ben, ce matin, en se levant, on s'aperçoit qu'en Italie, c'est pas gagné. Tu tentais que Romano Prodi, ce soit une victoire pour quelqu'un. Et le CPE, il est retiré, mais la loi sur l'égalité des chances, elle continue à exister. Elle permet encore de sanctionner les parents qui ne sont pas responsables et de leur supprimer leurs allocs. Elle permet encore l'apprentissage dès 14 ans et de mettre les jeunes au turbin encore plus rapidement. Et le CNE, qui est un CPE pour les moins jeunes et pour ceux qui sont dans les boîtes un peu plus petites, eh ben, il existe toujours. Donc bonne continuation à ceux qui continuent de lutter et courage, et on va arriver à retirer tout ça. Et je pense pas que ce soit une grande grande victoire qu'on ait eue aujourd'hui ou hier. Bon ben ciao, c'était Julien de Toulouse.
J'ai sous les yeux une réflexion de l'évêque de Créteil. Dans le système actuel, je ne dis pas qu'il est injuste que quelqu'un gagne bien sa vie. Je dis simplement qu'il arrive un moment où il en a une part si importante qu'il doit en avoir volé à quelqu'un.
Oui, je suis en train d'écouter Hervé. Là, nous sommes lundi et j'écoute cette merveilleuse chanson italienne et je suis en train de... Presque les larmes me viennent aux yeux parce que Berlusconi, ciao! Enfin, les Italiens me font plaisir, parce que quelque part, eh bien, mon père avait fui l'Italie de Mussolini, donc quelque part, j'aime l'Italie, j'aime ce beau pays, j'aime les Italiens. Et là, ça me faisait une peine extraordinaire qu'ils aient mis Berlusconi au pouvoir. Enfin, enfin, voilà les Italiens que j'aime, voilà l'Italie que je reconnais. Vive l'Italie, vive les Italiens,
Et
je suis très, très, très contente pour eux. Merci,
ravie, suite à l'émission d'hier, mais... une moitié de pan sur le bec, parce que hier on s'est enthousiasmé pour les résultats en Italie, ça y était, dans la base j'y suis, champagne, asti et tout ce que vous voulez. Et ben non, parce que on s'est un peu aventuré, il faut bien le reconnaître. C'était pas une victoire aussi éclatante que ça. Il a fallu attendre très très longtemps des résultats, et les résultats sont encore à l'heure où je parle, encore incertain malgré tout. Alors voilà, un autre son de cloche avec notre Francesco Giorgini. Je rappelle que Francesco, qui travaille souvent pour nous pour la base où j'y suis, est correspondant d'une radio libre italienne qui s'appelle Radio Popolare, d'où il nous appelle, où nous l'avons rejoint. Francesco, dis-moi, on s'est réjoui trop vite hier soir, hein, dans 17h, là-bas si j'y suis, ça y est, Berlusconi est tombé, c'est la révolution, c'est le champagne, etc. Et puis, il y a eu une retombée de sombrero.
Il y a eu une retombée de sombrero qui nous a épuisés toute la nuit, on est resté accrochés au chapelet des chiffres, vraiment comme des assoiffés, et on a eu manqué un lueur d'espoir que vers 3 heures de cette nuit. Et là, on a su que à la Chambre des députés, le centre gauche avait gagné des 25 000 petites voix, 25 000 sur 40 millions. Et ce matin encore, on s'est débattu pour savoir si au Sénat, donc à l'autre assemblée, le centre gauche était devant ou derrière. Et ça se joue encore en ce moment quand je t'appelle. Sur un petit siège au Sénat, un siège de sénateur. Donc ça a été un écorchement long et douloureux, et c'est vrai qu'hier soir, vers 18h, 18h30, entre 18h30 et 20h, 22h, la fête nous est restée au milieu de la gorge. Probablement la phase grandissante du berlusconisme est finie, mais la base sociale de Berlusconi est une base très solide et qui ne s'est pas effondrée, qui n'est pas partie en poussière, qui ne s'est pas évaporée.
Mais Francesco, quand est-ce qu'on aura des résultats définitifs?
On peut dire que, j'ai dit, à un siège près, les résultats sont définitifs et le centre-gauche a gagné à la Chambre comme au Sénat. Il y a quand même des recours pour plus d'un demi-million de bulletins. Donc le Conseil d'État devra vérifier et il s'ouvre une période où on ne sait pas trop, hein, sachant qu'en plus de ça, le mandat du président de la République, qui chez nous est une espèce de père de la nation, qui est un peu l'arbitre, se termine dans 40 jours et donc le nouveau Parlement devra élire aussi un nouveau président de la République. Et dans ce climat, avec un pays si partagé en deux et d'une façon si violente, l'écume des boutades sur les couillons n'est que justement une écume, mais qui représente bien la distance qu'il y a entre les deux Italies qui sont dessinées aujourd'hui, ne promet rien de bon et rien de facile pour les jours qui viennent.
D'accord. Eh bien, écoute, un jour on rit, le lendemain on doute.
Mais on se rappelle quand même que le CPE est mort. Et ça, même pour les Italiens, c'est un grand soulagement.
Salut, salut.
Salut.
Salut Francesco. Voilà, de nouvelles de Bologne avec notre Francesco Giorgini. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'enfant qui regarde la télé, ou plutôt qui regarde les pubs à la télé, qui les regarde ou qui ne les regarde pas, ce que fait la pub à l'enfant. De l'enfant roi à l'enfant proie, c'est un reportage d'Olivia Gesbert. Auparavant, j'ai oublié de dire qu'à 20h30 ce soir au bar Le Manon, à Saint-Égrève, près de Grenoble, il y a un rendez-vous des amis, des repères de là-bas, si j'y suis. Ça continue un peu partout, à travers notre bel hexagone. Eh bien, les amis de là-bas, si j'y suis, se retrouvent dans des repères. On va reprendre ces rendez-vous et vous tenir au courant de ce qui se passe dans ces repères. Mais pour l'instant, nous partons dans les yeux, la tête, l'âme, le corps et les reins des enfants face à la pub. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert, de l'enfant roi à l'enfant proie.
Le goût des choses simples, des surprises, et devient la star. Oui, la star de la prochaine pub Flunch.
C'est un jour où vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grands.
Frosty sur une couche de lait pour qu'elle rentre dans un sac Coco Pops.
Une pédophilie mentale. Pédophilie mentale. Il faudrait inventer le délit de pédophilie mentale. De tous les crimes, la pédophilie est sans doute à juste titre le plus honni, abusé de l'innocence et de la confiance d'un enfant. Mais que fait la publicité? Quelle différence lorsque l'enfant s'éveille et s'émerveille au mystère et aux merveilles du vaste monde et de la vie? Danone est déjà là, Danone ou une autre marque, à la maternité, à l'orée de la vie, lorsque la mère étonnée regarde son petit, entre la mère et l'enfant, il y a aujourd'hui une page de publicité. Il y a au chevet du berceau des cadeaux, un magnifique coffret de nos produits. Parlant comme je le fais, j'enfonce des portes ouvertes, mille fois ouvertes, surtout pour les auditeurs de France Inter, qui sont connus comme des publiphobes. Publiphobes, tiens, arrêtons-nous un instant sur ce mot de publiphobie. Pourquoi seriez-vous publiphobe? D'ailleurs, ça ne vous différencie pas de la majorité des Français, car la majorité des Français le sont publiphobes. Mais là, le mot, l'élément phobie dans le mot publiphobie suppose une maladie, une névrose, qui suppose des soins, une psychothérapie, comme s'il était normal de supporter la pub, voire même d'aimer la pub, mais être contre la pub serait une malformation psychologique, une déformation psychologique. On va pouvoir mesurer, à travers le reportage d'Olivia, à nouveau, ce que fait directement la pub à l'enfant. Tous les efforts qui sont faits, ça date pas d'hier, la pub. Chemin faisant, on va tomber sur des vieilles pubs d'autrefois, et on verra que ça date pas d'hier, de la réclame à la publicité. Tout cela a été raconté, balisé. N'empêche que cette critique de la pub, elle est relativement limitée. Limitée parce que tous les médias, à l'exception de quelques-uns, dont France Inter, et quelques rares supports aujourd'hui, quelques rares médias, sont dispensés de pub, encore que nous en ayons quand même un petit peu, nous. Mais il est évident que la plupart des médias doivent ménager les annonceurs. Les annonceurs de quoi? Les annonceurs de tout. Il y a des annonceurs d'un tas de produits, et ce qui fait que ça ne va pas sans infléchir la ligne éditoriale, la liberté de la presse, et donc de l'expression, et donc de la démocratie. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les enfants face à la pub, et essentiellement à travers la télé, mais on le verra pas seulement devant la télé. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, c'est France Inter, de l'enfant roi à l'enfant roi.
Répète après moi.
Répétez après moi, c'est fou comme on se la pète.
C'est fou.
Tu t'en fiches?
Tu es un flic.
Ferwan. Oui. Devi.
Oui.
Jason.
Lily.
Amel.
Et j'ai 8 ans.
Lily.
Bonjour, je m'appelle Amel et j'ai 8 ans.
Sofiane.
Je m'appelle Lola et j'ai 8 ans.
Maëlle.
Je m'appelle Maëlle, j'ai 7 ans.
Je m'appelle Lisa et j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Amiba et j'ai 8 ans et demi.
13.
Je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans.
Je m'appelle Jason, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Davy, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Carwan, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Marwan, j'ai 8 ans et demi.
Voilà. Voilà en gros les enfants qui sont là ce jour-là dans l'école Paul Langevin à Saint-Étienne-du-Rouvray dans la ZEP de Rouen. C'est une classe de 13 enfants. Il y a une dizaine d'enfants qui sont issus de l'immigration avec des gros guillemets de chaque côté et la plupart de l'expression issus de l'immigration, on s'entend bien. Et la plupart d'entre eux viennent de milieux modestes, on va dire de milieux ouvriers, il y a des parents, quelques-uns qui sont chômeurs. L'institutrice s'appelle Virginie et elle nous accueille, elle accueille Olivia Gesbert dans sa classe avec ses enfants charmants, sympas, souriants. Et on va parler de la réclame. On va parler de la, non pas de la réclame, je suis sûr que c'est un mot. Ça, c'est un mot de vieux. Les enfants ne veulent plus employer ce mot de réclame. Un petit détour avant par la Suède. En 1999, il y a eu un vrai branle-bas de combat dans les milieux publicitaires. En Suède, on voulait réglementer la pub. On voulait limiter la pub pour les enfants, concernant les enfants. Eh bien, aussitôt, ça a été une véritable levée de bouclier dans la presse française. Le magazine Stratégie s'indignait, privé de pub, disait-il, comme s'il s'agissait d'une punition. Le quotidien Libération s'indignait également et accusait les Suédois de vouloir priver les enfants des publicités qui les concernent. Priver les enfants des publicités qui les concernent. Le quotidien Le Figaro sonna l'alarme. La pub pour les enfants en danger, s'indigna Le Figaro en fulminant contre le jusqu'au boutisme suédois et Télérama. Télérama présenta la Suède comme un pays, je cite, traditionnellement ultra protecteur en matière de jeunesse. Et cita un professionnel qui dit tout en trois points, je cite, « Restreindre ou interdire la pub pour et avec les enfants serait inutile, anti-économique et contraire à l'esprit français ». Voilà, c'était un papier de François Brune, qui est connu pour son travail sur la pub, disons plutôt contre la pub, et la façon dont la pub s'immisce dans les esprits jusqu'à devenir se faire oublier complètement, et commence évidemment très le plus tôt possible dans l'enfance, mais vous savez bien que dans la moindre maternité de France, à peine lorsque l'enfant paraît, Danone est déjà là, pourrait-on dire. Et c'est ce conditionnement qu'on va voir à l'œuvre aujourd'hui. Je le disais, ça date pas d'hier, la réclame ne date pas d'hier, elle a pas toujours existé. Le conditionnement des êtres humains est une vieille coutume, on peut dire, le dressage de l'être humain est une vieille coutume, dont aujourd'hui la publicité fait partie, au point d'envahir beaucoup plus nos espaces mentaux, notre culture, que nous ne l'imaginons.
C-U-P-L-I-C-I-T et accent aigu, si je me rappelle.
J'ai 8 ans et demi.
Mes parents, alors ma mère est infirmière et mon père, il est prof de mécanisme au lycée Blaise Pascal.
Tu m'as dit, toi, combien t'avais de télé chez toi ?
J'en ai que deux. Une dans la salle et une dans la chambre de mes parents.
Que deux, tu trouves que c'est pas beaucoup ?
C'est vraiment pas beaucoup. Et ils ont pas voulu nous en acheter une parce que nous, comme on aime bien regarder la télé, le soir en cachette, on regarde la télé dans leur chambre. Mais quand ils arrivent, ils le savent.
Quand ta mère, elle va faire les courses au supermarché, est-ce que tu vas avec elle ?
Oui, des fois.
Il y a un truc que toi, tu lui demandes toujours d'acheter parce que t'adores.
Non, jamais. J'ai jamais réclamé, moi.
Menteuse.
Une seule fois. J'ai demandé d'avoir une collection de livres sur les animaux. C'est tout.
Mais pour manger, pour le petit déjeuner, tout, tu ne demandes jamais rien.
Bah, les gâteaux, on mange plus de gâteaux maintenant.
Pourquoi?
Parce que on fait un régime pour pas prendre de poids, ni perdre ni prendre. Le petit déjeuner, c'est bout de pain avec confiture, beurre, jambon, truc comme ça, et bah du lait et du chocolat en poudre, Nesquik.
C'est quoi la pub de Nesquik justement?
Je préfère regarder la pub qui est sur la boîte. Ah bah en fait c'est 4 boîtes différentes de différents goûts. Alors t'as fraise, il y a vanille, il y a plein de goûts. Et en fait c'est du chocolat mélangé avec ce fruit.
C'est l'heure de nos céréales Nesquik. Oh,
le chien des voisins est dans le jardin et il y a nos céréales Nesquik.
Il faut qu'on les récupère.
C'est trop bon.
J'adore ce goût de chocolat.
On n'a qu'à le faire courir après un chat.
Le problème c'est qu'on n'a pas de chien.
On va en faire un. Vas-y, Cookie!
Ouais! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos céréales Nesquik?
Et c'est un céréale au bon goût de Nesquik.
Nesquik fait ça. Des chips, je mange un petit peu pour les pique-niques. Mais sinon, c'est pas des chips, c'est des gâteaux apéritifs. Monster Munch. Monster Munch, c'est des gâteaux en forme de fantôme. Donc t'as nature ou ketchup. On achète des natures. À la fin, c'est un enfant qui dit Monster Munch, mieux vaut tous les capturer.
Ça, c'est un slogan, c'est, en fait.
En fait, c'est 3 enfants qui jouent avec les gâteaux et qui font semblant que ce sont des vrais fantômes. Alors, ce sont des ennemis. Et à un moment, ils disent qu'il y a un martien qui s'échappe. Ah. En fait, c'est des martiens. Et puis, il y a la maman qui arrive. Et puis, elle attrape le gâteau, puis elle dit, on a encore eu chaud. Et puis, ben, après, elle le mange. Et puis, ben, ils en mangent tous un. Je sais pas, moi, cette pub, j'ai pas trop aimé parce que ça fait grossir et tout. C'est juste pour vendre, c'est pour gagner de l'argent. Et moi, j'aime pas trop comme ça.
Qui t'a dit ça?
En fait, gagner de l'argent, c'est un besoin. Mais il faut pas vraiment abuser comme ça pour faire grossir les gens, quoi.
En mangeant moins de produits sucrés et gras, tu protèges ta santé. Pour plus d'informations, retrouvez les repères du programme national Nutrition Santé sur le site mangerbouger.fr.
Alors, c'est comment?
C'est bon, mais c'est chaud, hein. C'est bon.
C'est comme ça qu'on les mange, hein.
Mais comment t'as fait ça, toi, qui sais rien faire?
Ah, j'ai gentil, merci. Tac, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, t'as compris pourquoi c'est chaud?
Je rigole.
Nouvelle pâte à cookies de Herta. Herta, le goût des choses simples.
Avant-marque, prêt, servez!
C'est l'heure de nos céréales, les squish!
Herta, le goût des choses simples.
Et devient la star. Oui, la star de la prochaine Jeep Lunch.
Les cibles. Les enfants sont des cibles pour la publicité. On peut franchement parler, je le répète, de pédophilie mentale. C'est une expression que reprendrais-je facilement s'il n'a pas déjà employé quelqu'un comme Paul Ariès. Je parlais de François Brun, mais Paul Ariès, lui aussi, fait partie de ceux qui, inlassablement, il est enseignant et chercheur en sciences politiques à l'Université de Lyon, de ceux qui, inlassablement, sont des véritables croisés contre l'envahissement de la publicité en général et à l'école en particulier, évidemment, parce que c'est là que ça commence, même si ça commence avant même l'école, on le disait, et il est le porte-drapeau de la campagne des casseurs de pub. Il y a aussi un mouvement qui s'appelle le rap contre l'agression publicitaire, et évidemment il est effrayé devant la banalisation de l'expérience commerciale au sein de l'expérience pédagogique. Alors, ben on le retrouve, Paul Ariès, qui nous donne une série de chiffres et d'indications assez édifiantes.
Merci.
Si les publicitaires sont prêts à dépenser autant, je dirais pour les spots,
publicitaires. Il faut toujours se rappeler quand même que si un jeune français subit déjà 20 000 spots publicitaires par an, il y a encore de la marge, puisqu'un jeune américain en subit 40 000. Et je dirais que si aujourd'hui on dépense entre 150 000 euros et 1 million d'euros par spot publicitaire, et que très souvent on y travaille pendant plus d'années, c'est sans doute que ça a une certaine efficacité. Il suffit de regarder quels sont... Je veux dire, quelle est la Bible, notamment, hein, des publicitaires qui travaillent sur le domaine de l'enfance, c'est-à-dire Brainshield. Ce qu'on se rend compte, ce qu'ils nous disent, tout d'abord, c'est que les dépenses des enfants doublent aujourd'hui tous les 10 ans. Hein, c'est-à-dire que, globalement, le budget des enfants n'a jamais été aussi important. En France, actuellement, pour les 6-14 ans, c'est 12,35 euros, hein, par mois. Pour les 15-17 ans, c'est plus de 37 euros. Et ceci, je dirais, sans tenir compte de l'argent donné pour Noël, pour l'anniversaire, pour les bons résultats.
C'est quoi ? C'est les dépenses directes, l'argent de poche ?
Ça, c'est l'argent de poche. Et à côté, il y a le pouvoir de prescription des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant ne décide pas seulement ce qu'il consomme, il décide aussi ce que toute la société, toute la famille va consommer. Et aujourd'hui, on estime à près de 2 milliards d'euros ce pouvoir, effectivement, de prescription. Et je dirais le grand danger, c'est que les enfants sont victimes de plus en plus jeunes, dans le sens où dès 2 ans, aujourd'hui, on sait que les enfants commencent à réclamer non seulement tel ou tel produit, mais telle ou telle marque. Et que dès l'âge de 4 ans, ils réalisent eux-mêmes leur premier achat. Et il y a une étude qui a été faite par la société Findus en 2005 et qui montre que dans une famille sur deux, les enfants, par exemple, mangent aujourd'hui différemment de leurs parents. Et que les familles ont également tendance à manger de plus en plus selon le goût des enfants. Non seulement parce que la pression publicitaire augmente, parce que les techniques aussi s'affermissent, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notamment l'utilisation dans le domaine du neuromarketing, des derniers apports, hein, de la neuropsychiatrie, on sait comment finalement une pub interagit avec non seulement la conscience, mais l'inconscient. Le neuromarketing, c'est d'abord des études qui sont faites, c'est-à-dire qu'on va utiliser notamment des appareils médicaux, hein, comme des IRM, pour regarder, pour mesurer quel est l'impact d'une publicité sur le cerveau. On peut finalement arriver à définir des techniques de dressage du comportement des enfants, mais je dirais dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est l'ensemble aujourd'hui des modèles de consommation des familles qui sont de plus en plus soumis en apparence, je dirais, au dictat des enfants, mais en réalité, en fait, c'est le pouvoir des marchands, c'est le pouvoir des publicitaires.
Danone, février 68.
On aime les yogourts Danone, tous les yogourts Danone, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes
et les enfants.
Un Danone avec des fruits,
un Danone fruité
ou nature.
Voici c'est encore votre yogourt. Parmi les veloutés Danone.
Velouté nature, velouté aux fruits. C'est naturel, c'est frais, c'est Danone.
Mais aussi
Danone à ses gourmandises.
Les éclairs Danone et les Danis.
Pour le dessert, le goûter, que des friandises.
Les yogourts Danone.
Ils sont tous bonbons, ils sont très bons.
Ils font du bien, bien.
Beaucoup de bien. Les yogourts Danone, il y en a
beaucoup. Et pour tous les goûts.
Naturel comme un Danone.
Le matraquage publicitaire, vous voyez, vous l'entendez plutôt, ne date pas d'hier. On se souvient des buvards de notre enfance à l'école, des buvards publicitaires. Je me souviens de buvards avec des marques de cirage. On s'échangeait ces buvards. On se souvient aussi des images du chocolat Meunier, pour ne pas le citer, qu'on échangeait contre des images d'autres chocolats. Le goûter, on connaît, on sait qu'on est depuis longtemps envahi par la réclame. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous vous souvenez peut-être de cette image. Hein, c'était on voyait un personnage assez rondouillard, si je me souviens. L'image me revient comme ça. Et il avait une sorte de coin pointu qui lui rentrait dans le cerveau. Et il y avait un marteau qui arrivait à gauche du dessin. Et qui, mettez-vous bien ça dans la tête. Voilà, c'était la réclame. On voit avec le neuromarketing, Paul Ariès nous en dit pas plus, mais ça nous inquiète beaucoup, évidemment, le neuromarketing, qu'aujourd'hui, c'est devenu une science extrêmement fine. On déploie, et on mobilise une énergie humaine, des connaissances humaines, des moyens techniques, électroniques, tout ce qu'on voudra, tout un tas de données pour arriver à vendre, vendre, vendre. Et évidemment, on commence par l'enfant à l'école. Je le disais, la Suède, qui en 99 avait envisagé de faire adopter par l'Europe sa propre législation concernant les enfants et la publicité télévisée, a une législation stricte concernant cette publicité pour les enfants. Tout simplement, c'est interdit à la télévision. Il n'y a pas de publicité pour les enfants à la télé, en direction des enfants, prenant les enfants pour cible à la télévision. C'est une restriction, c'est un aménagement, c'est une petite mesurette. Tout ça, c'est des sujets dont il faudrait sans doute débattre. Mais c'est quand même intéressant de voir la capacité de séduction de la publicité. Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, cette capacité des chercheurs, des observateurs, il y a des tas de sociologues, de psychologues qui sont mis au service de la pub, comme on sait, de façon à toujours, toujours séduire. C'est une forme de dictature. Il n'y a pas forcément la dictature, c'est pas nécessairement le gourdin, l'horreur, la terreur qui vient comme ça de face, la violence. C'est une autre domination par l'insinuation, par la séduction, et par la séduction, c'est la connaissance des goûts, des aspirations, de la sensibilité, de l'inconscient de l'autre. Il s'agit de rentrer dans l'âme de l'autre.
Oui, Danone, ça me dit quelque chose, oui. J'en ai déjà vu une. C'est la pub avec avec Ronaldinho, que sa mère, elle parle. Elle dit que quand il était petit, il était tout le temps le premier à l'entraînement et qu'il était très gentil et que les Danone au chocolat, il adorait ça et qu'il était donneur. Et on voit à la fin de son enfance qu'il est avec sa petite sœur et qu'il lui donne une cuillère de Danone.
Ça, c'est pas plutôt Lilian Thuram ?
Je sais plus.
C'est le grand joueur de foot black.
Oui.
Lilian ? Le football a toujours été un plaisir pour lui. Comme sa danette au dessert. Oh, qu'est-ce qu'il aimait ça. Mon Lilian, il est devenu un grand champion. Mais il n'a pas changé. Je suis si fière de lui.
Danette, c'est bon d'être ensemble.
Retrouvez le goût de votre enfance dans la nouvelle Danette, saveur petit beurre.
Tu crois ça que c'est bon pour la santé, le Danone au chocolat? Tu vas devenir un vrai sportif comme ça?
Bah, pas forcément. C'est lui qui voulait être sportif. Ou sinon, non, c'est impossible. Le chocolat, c'est trop sucré. Ça pourrait être de l'arnaquerie, c'est tout. Hein, mais des grands sportifs comme ça, non, hein, c'est impossible quand même.
Parce que les garçons, en fait, ils veulent devenir des sportifs, tu penses que c'est pour
oui.
ça? Alors ils regardent, ils veulent manger la même chose.
Oui, mais je pense qu'ils auraient tort parce que ça va plutôt leur faire grossir que leur donner de force pour faire du sport. Hein.
Coco Pops de choc! C'est deux céréales chocolatées, une croustillante plus une fondante dans le même paquet. C'est nouveau! Deux sensations différentes pour un super goût de chocolat. De choc, tellement chocolat qu'on veut tous y goûter. De céréales qui font des crocs et Coco Pops de choc.
J'ai 14 ans. 13 ans.
14. 13.
10.
Qui a la télé chez soi?
Tout le monde.
Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé?
Football. Le foot. Je vais à la play.
Ok, et ça vous arrive de regarder les publicités quand ça passe au milieu du foot?
Ouais.
Ouais.
C'est quoi vos pubs favorites, celles qui vous font le plus rire?
Celle de Ronaldinho quand il était petit. Ouais, la pub. On parle du foot. C'est un vieux, il raconte la vie de Ronaldinho quand il était petit. Danone, Danette.
Pourquoi elle vous plaît cette pub? Parce qu'il y a du foot dedans?
Ouais, un peu.
C'est qui vos sportifs préférés?
Ronaldinho. Zizou. Coleta. Figo.
Quand ils mettent des joueurs de foot à la télé dans les publicités, pourquoi vous pensez qu'ils font ça?
Pour gagner de l'argent. Aussi pour gagner une voiture. Pour qu'ils soient plus célèbres.
Et vous pensez pas que c'est parce qu'ils savent que vous aimez peut-être le foot et que du coup vous allez mieux retenir cette publicité?
Non. Si. Pour acheter Danette.
Et ça marche? Est-ce que vous achetez Danette?
Oui,
des fois.
Ouais, parfois.
Arrête, me dis ça, toi. Ta mère va faire les courses. Qu'est-ce qui se passe si elle les achète pas?
Si, elle va les acheter.
Pourquoi?
Parce que je la demande.
Et elle fait tout ce que tu lui demandes, elle l'achète?
Bah, oui. Parce que si elle me demande de bien travailler, moi je la fais. Si elle me dit des trucs, je les fais. Et moi, si je la dis des trucs, elle la fait.
Là aussi, on assiste à un véritable viol de l'univers de l'enfance. Parce que c'est pas simplement, même si on a raison de le dénoncer, je dirais une sorte de brouillage entre ce qui est du domaine de la pub et ce qui est du domaine d'un film, y compris d'animation. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire que ce qui est montré, finalement, c'est la nécessité pour l'enfant de s'inscrire seulement dans un spectacle. Et si on choisit des petits personnages pour animer ces pubs, c'est parce que l'identification va être beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on va offrir par ces icônes, par ces petits personnages, des sortes de modèles aux enfants qui viennent se substituer aux modèles qu'apporte habituellement la société, c'est-à-dire les parents ou le maître d'école. Je dirais, si on met aussi très souvent en scène des situations ludiques, c'est parce que, je dirais, le fait d'instrumentaliser le jeu, c'est une excellente façon pour pénétrer dans l'imaginaire des enfants. Je dirais, la pub va de ce fait forcer les résistances que l'enfant pourrait opposer au dressage publicitaire. On a un professeur de l'université catholique de Mons en Belgique, Christian Derbex, qui étudie depuis longtemps les expressions faciales des enfants à qui on projette des spots publicitaires. Et ce qu'on peut lire sur leur visage, ce sont des phénomènes de joie, de surprise, de dégoût, d'intérêt. C'est-à-dire que ce travail permet de voir en quoi la publicité réalise un traitement exclusivement affectif. Et je dirais que cette primauté de l'affectif, c'est ce qui explique cette création de personnages. Hein, le tigre Tony chez Frousty, le lapin chez Nesquik, le prince de Lu, Pepito, le petit mexicain gourmand. Je dirais que ce sont de véritables héros, mais ce sont des héros commerciaux qu'on va imposer dans l'imaginaire. Et je dirais que c'est d'autant plus pervers que les publicités sont de plus en plus faites à la façon des films. Donc l'enfant n'a plus la capacité de dire « ça c'est de la fiction » ou « ça c'est de la pub » ou « ça c'est de l'information » ou « ça c'est de la pub ». Et pour ça, les publicitaires ont besoin de ces techniques de brouillage. Je dirais qu'on peut s'identifier beaucoup plus facilement à un bon gros tigre qu'à des pétales de maïs au chocolat. Et l'enfant qui s'identifie à ce bon gros tigre, eh bien, je dirais que c'est un consommateur qui est accro. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on va pouvoir le fidéliser. Parce que sous prétexte de jouer avec lui, eh bien, on s'est joué de lui. C'est-à-dire sous prétexte de se situer à son niveau de fonctionnement psychique, on a réalisé un véritable viol de son imaginaire. Et alors, si on bénéficie en plus, ce qu'on développe systématiquement, des petits caddies pour enfants, alors là, ça devient le rêve. Parce qu'effectivement, on va pouvoir se mettre à fonctionner sur le même mode que papa-maman, et on va pouvoir s'imaginer que devenir adulte, et ben c'est tout simplement accéder, je dirais, à ce monde merveilleux qui n'est pas seulement celui de Disney, mais qui est aussi celui, je dirais, de la consommation.
Pub, c'est la pub. Pub, pub, c'est la pub. Le samedi matin, je mate la télé. J'attends la pub entre des dessins animés. Avec mes potes, je connais tous les spots. À la récré, je sens que je vais m'éclater. À l'endroit ou à l'envers, par petits bouts, c'est pas l'enfer. Les chocs à pic au chocolat, c'est beaucoup plus facile que la règle de froid. C'est le prix de Baby la pub. 5 ou 6 à la chaîne, partout tout le temps sur les chaînes. Et on tape comme on dégaine. On connaît tout sur tout, sur tout ce qu'on aime. C'est le prix de Baby la pub. Et même quand y'en a plus, on attend la prochaine. Pub, c'est la pub. Pub, pub, c'est la pub. Le mercredi, c'est de la folie. De 7h à midi et tout l'après-midi. Je fais craquer les tartines de Nutella. J'attends la pub, le nez dans mon verre de coca. Des Nico au chocolat, des pépitos qui chantent. Aïe, il a là-bas, à la barre qui bulle, de grosses bulles, claque sur mon pull. Avec maman et super croix, trois
petit tour de machinette, puis tout s'en va. C'est le prix des belles et la pub. 5 ou 6 à la chaîne, partout tout plein sur les chaînes. Et on part comme on dégaine. On connaît tout sur tout, sur tout, sur tout même. C'est le prix des belles et la pub. Et même quand y'en a plus, on attend la prochaine.
Oui, la star de la prochaine pub Flunch.
Chaque jour, vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grands.
Moi qui s'offre pour Tony Parker. Frosty, c'est du lait en barre. Frosty sur une couche de lait pour qu'elle rentre dans un sac Coco Pops de choc.
Le baby marketing, ça s'appelle. Le baby marketing, c'est ce qui consiste à, vous avez compris, à étudier et à œuvrer pour en considérant que l'enfant est une cible et les parts de marché grandissent avec cet enfant. Vos parts de marché grandissent avec lui, répètent les spécialistes du baby marketing à l'adresse des annonceurs. Alors, il y a la dimension du conditionnement publicitaire, mais ce conditionnement dépasse largement les stratégies commerciales prises isolément. Je parlais de la réclame autrefois ou de la publicité, on entendait une publicité des années 60. Aujourd'hui, c'est un système plus général par lequel passe l'idéologie de la consommation, hein, l'idéologie de la consommation, l'état d'esprit des ménages, le moral des ménages, etc. Tout ça, c'est, et la consommation est devenue presque un acte patriotique de solidarité. Il faut consommer pour faire de la croissance et de l'emploi, parce que l'emploi serait au bout de la croissance. On en est presque là. Le consommateur serait un acte presque politique, puisque on suppose que si on boycotte un produit, eh bien, on peut de cette façon s'exprimer et agir presque politiquement. Souvenez-vous, comme il avait été question de boycotter les produits Danone à un certain moment, ou Total, au moment du naufrage de l'Erika, etc. Ça avait été des idées qui avaient même peut-être un début d'action comme ça des consommateurs. Et à travers ces publicités à destination des enfants, ce marketing publicitaire à travers les enfants, c'est en fait cette idéologie de la consommation qui passe et qui est une face indispensable évidemment de la marchandisation du monde. C'est-à-dire que quand on dit le monde est une marchandise, le slogan peut paraître déjà un peu dépassé, mais il est quand même, il passe par la pub. Et il passe par la pub en s'adressant en priorité et dès le début à l'enfant.
Bon, en résumé maintenant, à chaque fois qu'il y aura la pub à la télé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la télé allumée ou on l'éteint?
Je dirais laisser la télé allumée parce que c'est plus facile, on peut regarder ce qu'on peut acheter, si c'est moins cher ou si c'est plus cher. Comme ça, on sera avant ce qu'on devra acheter à l'avance.
Parce que la pub te dit si c'est moins cher ou plus cher, elle compare.
Une fois, c'était une pub pour un abonnement téléphonique, j'ai vu que c'était moins cher. C'était à 1,80€ l'appel pour pouvoir, et c'était plus longtemps. L'appel illimité à 29,90€ par mois. Abonnement téléphonique gratuit.
Et toi, t'as un téléphone à toi?
Non, moi j'ai jamais eu de téléphone à moi.
Qui paye la note de téléphone, la facture de téléphone?
C'est papa et maman. Ah. Moi, je les aide des fois parce qu'il faut acheter des choses. Donc, comme ils ont moins d'argent dans leur porte-monnaie, bah, je leur donne de matière lire.
Et tu leur as recommandé de prendre plutôt l'abonnement téléphonique à 1,80€?
Bah oui.
Tu leur as dit que tu avais vu ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Mais ils regardent aussi. Hein.
Et c'est important pour toi, par exemple, que les publicités donnent un peu ces prix-là, comme ça, pour être sûr que tes parents, bon, ils vont pas payer trop cher quelque chose qui peut être payé moins cher, quoi.
Oui. Je pense que ce serait l'idéal.
Et ça, tu me dis, c'est la pub qui va t'aider à te conseiller, en fait,
Peut-être un peu la pub. Et aussi dans les magasins, on peut appeler. Ils ont même des numéros de téléphone pour si on veut avoir des conseils. Comme c'est pas Danone, c'est Danacol. Bah, ils donnent des conseils pour vraiment, vraiment avoir la vraie assurance que c'est, ça fait vraiment baisser le taux de cholestérol d'Anacol. Donc, ils donnent le numéro de téléphone sur la pub. C'est pour ça que je recommande de regarder la pub si on a des produits qu'on n'est pas sûr. Quand j'ai regardé la pub, ils ont dit que fallait manger, bien manger, équilibré, bouger et boire d'Anacol tous les jours. Il y a eu aussi une pub de céréales, si on sent ballonné ou lourde, il y a plein de choses. En fait, c'est pas très facile à expliquer tellement il y a de pubs pour ça. Ce que je recommande, c'est les produits de, avec 0% de matière grasse. C'est ça l'idéal.
C'est ça, la pub te dit quels produits ont 0% de matière grasse?
Une pub, oui. Voilà, c'est taille fine.
Ah!
Taille fine, ça c'est l'idéal. Ils mettent 0% de matière grasse. Boissons, céréales et tout. Tout ce qu'ils ont, c'est 0% de matière grasse. C'est ça qui est bien.
Les desserts allégés en matière grasse contiennent parfois beaucoup de sucre. La crème dessert taille fine n'a rien à cacher. Allégée en matière grasse et en sucre. Elle est plus gourmande que jamais. Avec son chocolat noir pour une crème dessert intense. Crème dessert taille fine en toute transparence.
Ça, tu demandes à ta mère de t'en prendre ou
Elle achète des yaourts au pruneau taille fine. J'adore. C'est 0% de matière grasse en plus.
Je voulais juste voir ton petit dessin à la sortie. C'est lequel le tien en fait, Léa?
Dans celui-là.
Ouais.
C'est celui-là. C'est Léa mange du chocolat parce que j'ai adoré le chocolat. J'adore le chocolat en fait.
Parce que le chocolat 0% de matière grasse, ça marche pas top. Hein.
Non.
On n'a pas vu de pub encore pour ça, où il y en a non. Déjà. Un jour, hein, tu sais, ils vont bien inventer ça. Hein.
Ben oui, j'aimerais bien, d'ailleurs.
Que penser de Léa, par exemple, 8 ans, qui se souvient à la virgule près du montant des nouveaux forfaits téléphoniques de je ne sais plus quel opérateur de téléphonie, alors qu'à 8 ans, elle n'a pas elle-même de téléphone portable. Pourquoi cette pub a pu la toucher?
Déjà, ça montre que cette petite fille est un parfait exemple des enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a un œil ouvert sans arrêt sur, je dirais, des phénomènes qui relevaient d'abord des phénomènes d'adultes. Les enfants sont de plus en plus, je dirais, submergés par des problèmes d'adultes. Parce que l'institution familiale est en pleine évolution, sans doute pour le meilleur et pour le pire. Et que l'enfant subit la pression de la société comme sa famille, parce que l'enfant est dans une famille déstructurée, parce que il y a des difficultés de fin de mois, parce que également on va demander systématiquement son avis à l'enfant, y compris pour l'achat d'une voiture ou pour le choix des lieux de vacances. Donc l'enfant ne fait plus la part entre ce qui lui revient en propre et ce qui revient aux adultes. Et je dirais que la conséquence, c'est que ces enfants qui grandissent trop vite, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, hein, parce qu'ils ont une sorte d'emploi du temps de cadre supérieur, eh bien ensuite, ça fait des adultes pas aboutis. Et je dirais que cette petite fille qui est capable, effectivement, de citer au centime près les tarifs téléphoniques, on peut en pas douter, s'imaginer qu'elle a un pouvoir de prescription extraordinaire sur ses parents. Mais je crois qu'à ce moment-là, on passe très vite de ce que François Brune appelle l'enfant roi à l'enfant proie. C'est-à-dire, sous couvert de libérer les enfants, en réalité, ce qu'on développe, c'est pas une tyrannie de l'enfance. Ce qu'on développe, c'est la dictature de la pub sur les enfants.
Ici, nous dressons les chiens de nos clients pour les aider à réduire leur facture de portable. Nous les entraînons pour qu'ils interviennent dès que leur maître essaie de téléphoner. La plupart de nos clients sont satisfaits du service.
Mais il nous reste quelques petites choses à améliorer.
Il y a plus simple pour réduire votre facture de portable. Avec Télé2Mobile, vous bénéficiez de forfaits très économiques. Et avec Télé2Mobile, votre portable avec appareil photo est à 0 euros.
Est-ce que c'est pas vous, Paul Ariès, finalement, qui infantilisez nos enfants? Enfin, je me souviens avoir lu plusieurs interviews de publicitaires ou de responsables d'agences en marketing, et tous nous disent qu'aujourd'hui, eh bien, les enfants sont forcément plus critiques, car ils sont beaucoup plus responsabilisés, car finalement, nos enfants grandissent plus vite.
Ce qui va être proposé par les publicitaires, c'est une sorte de fausse stratégie d'émancipation. Et je dirais un peu en deux temps. D'abord, les publicitaires vont dire aux enfants, il faut que tu deviennes un grand. Il faut que tu deviennes un grand, c'est-à-dire que non seulement que tu grandisses sur le plan physique, mais que tu deviennes plus costaud, plus fort, plus puissant. Et ça, je dirais que c'est globalement tout ce qui est montré avec la publicité dans le domaine de l'alimentation. où on va vanter les vertus nutritionnelles des produits. Je dirais que si les publicitaires jouent tant sur ce que caractère nutritionnel, voire hygiéniste, je crois que c'est pour deux raisons. Déjà, c'est bien sûr une façon de se protéger contre toutes les critiques sur la malbouffe. Et puis, c'est aussi une stratégie qui vise à déculpabiliser les parents. Et puis, il a une autre fonction. C'est que finalement, je dirais que ce discours hygiéniste, il devient très vite aussi une façon de vanter une sorte d'hyper-industrialisation. Ce qui serait dangereux, c'est le goûter familial. Parce qu'effectivement, lui, il serait pas fait par des nutritionnistes. Il aurait pas, je dirais, le logo qui est celui de la science ou d'une grande marque. On a aujourd'hui cet effacement de la fonction de la mère et du père. Et je dirais que cette pseudo-stratégie d'émancipation est forcément un leurre, pour deux raisons. La première raison, c'est que pour grandir les enfants, ce qui est proposé en quelque sorte, c'est de rapetisser les parents. C'est-à-dire que les parents sont donnés comme ceux qui ne savent pas. Par exemple, dans une publicité Kinder extraordinaire, on voit très bien que la mère sait même pas qu'existe le nouveau produit. Il faut leur envoyer à l'école Kinder. Dans une pub Lactel, on voit aussi comment la petite gamine va finalement réapprendre à son père qu'il peut boire du lait. Effectivement, dans ce lait, il y a beaucoup moins de lactose, donc tu peux le boire, tu le supporteras. Et je dirais tout ceci sous l'œil attendri de la mère. C'est l'inversion du modèle parental. Vous avez une pub extraordinaire de Disney où on voit toute la famille qui va au parc d'attractions et c'est papa qui est sur le manège et qui fait des tours de manège et chaque fois qu'il passe devant ses enfants lui font un petit coucou. C'est aussi une pub extraordinaire de McDo où on voit un petit grand-père avec sa petite barbiche et petit lorgnon. C'est la première fois qu'il va dans un fast-food, donc il se trouve avec ce machin devant lui, il sait pas trop comment faire. Donc c'est en regardant les plus jeunes qu'il va apprendre à manger. C'est ce qui est proposé. C'est une sorte de mariage entre l'enfant et le produit contre ses parents.
Oh, vous êtes là ?
Bonjour les amis.
Moi je regarde les dessins animés souvent. Sur la 1 et la 3.
Oui, oui, yes, well, very good.
C'est quand vous jouez.
Moi aussi, j'ai les mêmes groupes.
C'est les Kangoo Junior après la pub.
Et Boulibille, j'adore ici. Ouais, Boulibille
aussi. Voilà, on continue demain de l'enfant roi à l'enfant roi. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Paul Ariès et à tous les enfants de la classe de CE2 de Virginie Benito, à l'école primaire Paul Langevin à Saint-Étienne du Rouvray. À lire Nathalie Sapena, L'enfant jackpot aux éditions Flammarion de Paul Ariès, Démarque-toi, petit manuel anti-pub aux éditions Goliath. Et par ailleurs, rappelez-vous ce message qui était laissé sur le répondeur de la basse J'y suis, jusqu'au 15 avril au Vigan, dans le Gard, est organisé une semaine sans télé avec des spectacles et des débats autour de la place de la télé dans notre quotidien et ses conséquences sur notre cerveau. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission, là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Christophe Papon et Ronan Mahé. C'est Yann Chouquet, Coy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascal Yello et de Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est 01 56 40 37 37 et l'email de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et maintenant, voici l'instant sur France Inter, après tout ça, de la réclame.